Radio Cité Genève.
Le grand invité. Cléa Favre.
Dans le cadre d'un cycle de concerts appelé Parfums du Maghreb, les ateliers d'ethnomusicologie s'interrogent sur la place des artistes à l'heure de ce que l'on a appelé le printemps arabe. Demain, une table ronde est organisée à ce sujet et vous en serez, Reda Benkiran. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, consultant auprès d'organisations internationales à Genève. Vous êtes également chercheur associé au centre Jacques Berck de Rabat, centre rattaché au CNRS. Alors tout d'abord, en tant que sociologue justement, quel regard vous portez sur cette appellation printemps arabe ?
Alors il y a beaucoup d'hésitations, beaucoup de gens. La notion de printemps, ça a quelque chose d'éphémère. Moi, j'ai hésité avant de parler de révolution. J'ai attendu, mais je pense que à la chute de Moubarak, j'ai compris que vraiment nous étions face à véritablement une révolution. Et qu'est-ce que j'entends par révolution ? C'est pas tellement seulement la traduction politique, renversement de régime, une révolution sur le plan des mentalités. C'est-à-dire que ce qui se passe depuis plusieurs mois, depuis près d'une année, révèle un bouleversement total au niveau des structures mentales. Et pour moi, je n'hésite pas à le dire, c'est probablement au niveau sociétal, dans toute cette partie, dans la rive sud de la Méditerranée, le mouvement le plus important depuis 14 siècles, je dirais, depuis la mort du prophète de l'islam.
Vous parlez d'évolution des mentalités, c'est-à-dire dans quel sens ?
C'est-à-dire que, essentiellement, pourquoi j'appelle ça révolution, et c'est une révolution que je trouve accomplie, c'est que, fondamentalement, c'est le verrou de la peur qui a sauté. C'est-à-dire que ce qui réunit ces différents mouvements dans différents pays, c'est fondamentalement un ras-le-bol par rapport aux dirigeants, par rapport à un pouvoir qu'on a voulu sacraliser, qu'on a institutionnalisé par-dessus tout. Ce pouvoir a instrumentalisé le religieux et l'individu qui se soulève, c'est fondamentalement cette relation au pouvoir qu'il veut remettre en question. Il veut des dirigeants qui soient comptables de leur action, qui émanent d'une souveraineté populaire.
Alors, on va s'intéresser de manière plus spécifique au Maroc, puisque c'est un pays que vous connaissez particulièrement bien. La victoire du parti Justice et Développement vous a-t-elle surpris ?
Non, parce que c'est un mouvement qui s'inscrit pas tellement dans une contestation, parce qu'il y a, disons, il y a un mouvement de contestation assez fort au Maroc, qui est le mouvement du 20 février. Le PJD, ce sont des islamistes qui se sont intégrés depuis près d'une trentaine d'années dans le jeu politique marocain, donc qui ont plus de 30 ans, sont sortis de la voie un peu clandestine. Donc ils ont fait un choix. D'être dans la légalité, dans le processus gouvernemental de la vie politique, et je pense que dans le cadre des réformes constitutionnelles, les nouvelles élections montrent que ce parti qui n'a pas encore l'expérience du pouvoir, donc qui bénéficie d'un capital de sympathie, c'est peut-être le seul parti politique au Maroc pour lequel il y a une certaine volonté de confiance. On veut croire un petit peu à ça. Il n'a pas été entaché par la gestion des affaires. Et donc, je pense qu'il a bénéficié aussi de ce capital de sympathie.
Les observateurs parlent beaucoup au sujet de ce parti d'islamistes modérés. Vous êtes d'accord ?
C'est des termes un peu... Déjà, le mot islamiste ne veut pas dire la même chose ici. Il est assimilé à quelque chose de séditieux, de lié à la violence politique, alors que simplement dans le monde arabe, ça veut dire quelqu'un qui a pour cadre de référence l'islam en tant que valeur. Alors derrière ce vocable, vous avez toutes sortes de graduations au niveau idéologique, hein. Mais clairement, c'est la mouvance qui est, je dirais, légaliste, non violente, et qui veut jouer le jeu démocratique. Et il y a un certain nombre de partis, pas simplement au Maroc, mais vous avez la Tunisie, l'Égypte. C'est un peu cette mouvance qui est en train d'émerger. Disant que intégrés dans un processus électoral, les islamistes sont, disons, modérés. Voilà, c'est un petit peu.
Vous diriez qu'il y a une psychose autour de ce terme islamiste en Occident ?
Oui, je pense que avec ces révolutions sociales en cours, c'est vrai qu'il y a une certaine ironie de voir que malgré près de 20 ans de mise à l'index de l'islam, d'islamophobie, de voir que les premiers processus libératoires les premières élections mettent en scène des gens d'inspiration islamiste. Donc il y a une certaine ironie de l'histoire. Mais je pense qu'au-delà de ça, ça va amener aussi tous ces mouvements politiques vont amener une certaine révision des jugements qui ont été pratiqués, des analyses qui sont produites en Europe et aux États-Unis. Donc il va falloir comprendre et rétrospectivement voir toutes les erreurs, tous les conflits, toutes les ingérences qui ont été produites au cours de ces 20 dernières années, qui ont produit beaucoup de violence. Bon, on espère que cette leçon là, ce processus un petit peu plus non violent, puisse réviser un petit peu les points de vue sur la réalité de l'islam politique.
Peut-être pour qu'on comprenne mieux, quelle place tiendra la religion, l'islam dans le gouvernement?
Dans le cas du Maroc, c'est aussi assez ironique comme situation, parce que s'il y a un pays qui est vraiment qui a une dimension théocratique, c'est le royaume du Maroc, le roi du Maroc qui est issu d'une dynastie qui règne au Maroc depuis plus de 4 siècles et descendant du prophète, il est le commandeur des croyants. Donc il cumule un certain nombre de pouvoirs. Il est donc chef religieux, chef des armées, chef d'État. Il est aussi le premier homme d'affaires du pays. Donc dans ce cadre-là, les mouvements islamistes, ça peut paraître étrange, mais jouent à un processus de sécularisation. Au Maroc, les islamistes ne veulent pas, ne reconnaissent la pleine légitimité religieuse du roi. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il délègue ou qu'il rétrocède de ses pouvoirs. C'est-à-dire, en fait, qu'il reste. L'idée, ce serait de se plaquer sur un modèle qui est un peu similaire, c'est celui de l'Espagne. Rappelez-vous, il y a 30 ou 35 ans, l'Espagne était sous la dictature de Franco, dans un état économique de quasi tiers-monde. Bon, en 30 ou 35 ans, il y a eu un progrès assez important. On peut imaginer, c'est-à-dire, je pense que les Marocains aspirent à quelque chose qui soit une transition d'une monarchie théocratique à une monarchie véritablement constitutionnelle et démocratique.
Vu de Suisse, c'est aussi quelque chose qu'on a du mal à comprendre, c'est l'attachement des Marocains à la monarchie.
Écoutez, l'attachement, il faut dire, c'est vrai que ces révolutions sociales qui ont lieu dans différents pays, dans le cas du Maroc, l'idée, on n'en veut pas, on ne cherche pas à renverser le roi. Mais ceci dit, c'est une tentative qui a été pensée. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, il y avait un certain nombre de forces politiques au Maroc qui voulaient instaurer une république. Et il y a eu deux coups d'État qui ont été faits en 1971 et 1972. Et par la suite, les choses ont évolué, c'est-à-dire que cette tentation a été éloignée. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment une. C'est dans le cadre d'une monarchie que les Marocains veulent assurer une continuité, mais quand même, aspirer à une monarchie
démocratie,
exactement.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, les islamistes sont également arrivés en tête des élections en Égypte et en Tunisie. Qu'est-ce que ça dit du printemps arabe et de la société arabe en général ?
Ça dit simplement que les partis d'inspiration religieuse sont un élément parmi important, mais pas exclusif, du paysage politique et sociale et culturelle de ces sociétés. Il est après tout assez normal qu'ils arrivent en tête dans ces différents pays parce que ce sont ceux qui ont souffert le plus de la répression. Et après tout, ils bénéficient d'un capital de sympathie. Je ne pense pas que les gens aspirent à des républiques islamiques avec application intégrale de la loi coranique, etc. Je pense que ce genre de rêve idéologique est derrière nous. La révolution iranienne est passée. C'est un peu ce grand soir révolutionnaire. C'est pas ce qui se joue actuellement. À mon avis, ce qui se passe est profondément à religieux, mais les religieux jouent un rôle. Rappelons-nous que le fait que ces partis politiques, mais d'essence religieuse, en fait, on utilisait le religieux parce que nous étions dans des sociétés où la liberté d'expression n'était pas permise. Donc, si vous voulez, le religieux devient une sorte d'asile politique.
Alors, pour en revenir à la table ronde à laquelle vous participez demain, peut-on vraiment dire que l'art peut avoir un rôle actif dans une révolution ou il est juste là pour accompagner ?
Écoutez, il peut avoir un rôle actif, c'est l'enjeu aujourd'hui, parce que cette révolution, elle est d'ordre social plus que politique, je dirais. Elle va avoir une traduction politique, mais elle va avoir, à n'en pas douter, parce que nous sommes au tout début de ce processus, hein. Donc, clairement, pour moi, ce qui se passe, ce qui se joue actuellement, ça va définir les 50 prochaines années. Donc c'est très difficile de prédire vers quoi on va aller, mais nous sommes dans une nouvelle dynamique et évidemment cette révolution sociale va faire voir le jour à toute une production artistique, intellectuelle. Et je pense que les artistes là vont traduire ce désir de liberté, ce désir de d'émancipation, ce délire de dignité. Je pense que déjà on voit quelques signes d'une production un peu artistique et intellectuelle, mais de la base, je dirais.
Au Maroc, par exemple, vous diriez que les artistes ont suffisamment de liberté pour pouvoir être subversifs ?
Bon, disons qu'au Maroc, il y a quand même un certain vent de liberté, mais il faut dire aussi que c'est un pays de haute culture, de longue tradition historique. Donc, l'art et la culture ont toujours été intégrés. Le problème avec les révolutions sociales en cours, c'est que la classe, disons, de l'intelligentsia ou des artistes qui étaient reconnus et qui peuvent être assimilés au pouvoir sont un petit peu, ne sont pas en pointe. Hein. Donc, évidemment, dans toutes ces révolutions, toute personne ou toute institution ou tout mouvement qui est proche du pouvoir, tend, sur le plan artistique ou intellectuel, tend à être déconsidéré dans cette phase actuelle. Mais il faut voir aussi les mouvements, les artistes sur le plan underground. Donc, par exemple, au Maroc, vous avez un rappeur, un Haqqed, qui est d'ailleurs arrêté et qui incarne un peu cet esprit subversif, cet esprit de l'art de la rue et avec une conscience politique. Donc, je pense que c'est plutôt ce qui est en jeu maintenant, c'est ces nouveaux artistes qui ne sont pas dans le système et qui font partie des mouvements de contestation.
Reda Benkiran, c'est notre petite tradition du matin. Voici quelques questions qui attendent des réponses courtes. Selon vous, la fin de la monarchie est-elle souhaitable au Maroc ?
Non.
Quelle est la valeur à laquelle vous attachez le plus d'importance ?
Sur quel plan ? C'est difficile de...
Politique ?
Politique, bah écoutez, liberté, égalité, fraternité, c'est un universalisme qui me plaît bien. Il est français en l'occurrence, mais il pourrait être islamique, voilà.
La dernière fois que vous vous êtes révolté, c'était pourquoi ?
Oh, je me suis révolté un certain nombre de fois pour... sur le plan politique, je pense que l'injustice faite au peuple palestinien, c'est vraiment un sujet de mobilisation et depuis très longtemps. Et j'espère qu'au bout de ce printemps ou de ces révolutions arabes, il y aura aussi le règlement de la question palestinienne.
Merci Reda Benkiran, sociologue marocain. Je rappelle que vous participerez demain à une table ronde sur la place des artistes à l'heure du printemps arabe. Ça se passe à l'Alhambra à partir de 18h. Et puis pour aller plus loin, un ouvrage notamment de Reda Benkiran, Le désarroi identitaire, jeunesse, islamité et arabité contemporaine, paru aux éditions Serres. C'était en 2004. Merci, bonne journée.
Merci.